Chapitre 16 du roi de la cité merveilleuse. La cité merveilleuse. Dites-moi, cher roi, quelque chose de la cité, fit un jour la petite fille. Il me semble parfois que le palais sera trop magnifique pour moi. Je ne suis pas habituée aux magnificences, vous savez. Souviens-toi, dit Lecta, que c'est vers ton propre pays que tu marches, et que ce palais sera ton chez-toi. Je n'ai jamais eu de chez moi ici, mais j'ai entendu parler de ceux des autres. Ils ont eu un bon père et une bonne mère, des frères, des sœurs et des amis, et de belles maisons, des jardins, des chevaux, des chiens, des oiseaux et des livres. Oh, des tas de choses que je n'ai jamais eues. J'en ai grande envie. Je me demande si c'est mal. Je sais que ça me rend malheureuse. Mon enfant, tu es destinée à être heureuse et tu ne pourras jamais assez désirer ce qui fera ton bonheur. Mais je vais te confier un secret, dit Lecta. Toutes les choses délicieuses qui constituent un chez-soi ici, sur la terre d'exil, ne satisfont point complètement ceux qui les ont. Ceux qui les possèdent le plus souhaite d'avoir davantage. Si quelqu'un pouvait obtenir tout ce que l'on peut avoir, il chercherait encore quelque chose de différent et de meilleur. Supposez même qu'il fût un instant content, encore serait-il bientôt obligé de tout abandonner. Chaque jour, des gens descendent dans la sombre vallée qui entoure la terre d'exil et partent sans garder entre leurs mains rien de tout ce qu'ils avaient ici, pour une terre qu'ils ne quitteront jamais. Arrivent-ils tous sains et saufs à la cité? Pas tous. Ils sont envoyés ici seulement pour un court séjour avec un travail à faire. Quand ce travail ou le temps donné pour ce travail est fini, on les emmène. Beaucoup de ces exilés oublient qu'ils sont en exil et essaient de faire comme s'ils étaient chez eux ici. Ils négligent la tâche qui leur avait été fixée, amassant tout ce qui peut leur donner du bien-être et ne pensent qu'à se divertir. Savent-ils quand le roi les enverra chercher? Personne ne le sait. Leur séjour peut être long comme il peut être court. Ils peuvent recevoir un avertissement. Ils peuvent ne pas en recevoir. Soudainement, au chant du coq, dans la chaleur de midi, le soir, dans le calme de la nuit, ou au milieu de bruyants divertissements, l'appel peut venir. Il faut que tous on les trouve veillants, car au moment où ils s'attendront le moins, leur Seigneur viendra. Je trouve que c'est très sot de leur part de ne pas s'appliquer à leur travail, parce que autrement, ils pourraient ne pas être prêts quand le roi les enverra chercher. Qu'arriverait-il alors? S'ils ont été de mauvais serviteurs et s'ils ont négligé complètement le service du roi, il est forcé de les chasser de sa vue et de les envoyer dans un terrible exil qu'ils ne quitteront plus. Tout ce qu'il avait préparé pour eux dans son palais qui devait être leur demeure, ils ne l'auront jamais. Tout l'amour, la joie et le bonheur que leur cœur désire ne seront jamais leur partage parce qu'on ne les trouve où se tient le roi dans la cité. Or, ils se sont rendus indignes d'y être avec lui. Alors, il vaut mieux ne pas avoir trop de bonnes choses ici, puisqu'on s'y attache trop. C'est plus sûr et préférable. Tu es pauvre, dit Lecta. Tu ne possèdes pas ce qu'on appelle les bonnes choses de la terre d'exil. Mais j'en ai plus que tu n'en as jamais souhaité et qui t'attendent. Elles t'appartiendront toutes un jour. Cher roi, j'aimerais avoir, oh, tellement, mais je ne crois pas que vous-même puissiez me le donner. Vous ne pourriez pas avoir une mère qui m'attende. Si? Mon enfant, je savais que tu allais me demander cela. Oui, il y a une mère qui te désire et t'attend, t'aimant comme une mère seule sait aimer et prête à t'aider toujours. Et y a-t-il là aussi des frères et sœurs? Je n'en ai jamais eu avec qui jouer. Tout ce que tu peux souhaiter ou imaginer se trouve là. Compagne et amie, joie et tendresse t'environneront. Tes yeux n'ont jamais vu, tes oreilles n'ont jamais entendu ce que je prépare pour ceux qui m'aiment. Le roi regardait fixement au loin. Dilecta essaya de suivre son regard et comprit qu'il distinguait nettement tout ce dont il parlait. Bientôt, elle dit timidement « Si j'aperçois une fois seulement ce que vous voyez, je crois que je n'aurai plus envie de recommencer à descendre la large route. » Le roi resta un moment silencieux. Il paraissait réfléchir. Puis, abaissant les yeux vers le petit village, visage où se lisait une supplication ardente, il reprit « Tu ne peux pas voir maintenant comme tu le feras un jour. Toutefois, puisque tu as prié si fort, tu auras quelque chose qui te montrera plus clairement ce que tu voudrais tant regarder. Tu le connais déjà. C'est pourquoi ton prince gardien et tes maîtres ont pu te former. Ce que tu réclames, ce que je vais te donner, c'est une vision plus intime et plus nette de ces choses. Ce don est très précieux. Prends-en soin et conserve-le bien brillant. Plus tu t'en serviras, plus il deviendra étincelant. Te sera très utile jusqu'au bout de la sombre vallée, jusqu'aux portes de la cité. » Le roi était parti. Mais sa promesse remplissait le cœur de la fillette d'une joyeuse attente. Quelque chose de très précieux. Il fallait donc soigneusement le garder. Quelque chose à conserver brillant et dont elle devait beaucoup se servir. Quel pouvait être ce présent ? Pendant la fin de cette journée, Dilecta fut obligée de travailler sans répit. Elle dut cueillir du jonc pour ses paniers, le tremper dans l'eau et porter un petit gâteau à Brigitte, la pauvre aveugle. Sa pensée retournait continuellement vers le don du roi et ce qu'il lui montrerait. Mais elle s'efforçait de bien s'acquitter de ce qu'il avait à faire et d'attendre patiemment, tout en sachant qu'au moment où elle regagnerait sa cabane, il n'y aurait guère de lumière pour voir quoi que ce fût. Le soleil était couché quand l'enfant souleva le loquet et regarda autour d'elle. La lampe de paix éclairait comme d'ordinaire la petite chambre de sa douce lueur et tout semblait être tel que Dilecta l'avait laissé. Alors le cadeau du roi n'était pas encore arrivé ? Attendez, il y avait quelque chose sur son tabouret, un petit télescope portant écrit en lumineuses lettres d'or « Foi ». Dilecta l'approcha de la fenêtre et l'appliqua à ses yeux. À l'instant, il en jaillit une lueur forte, constante, qui monta en fouillant le ciel comme un projecteur électrique. Et Dilecta elle-même était où ? Loin, bien loin des murailles de boue de sa cabane, de sa dure couchette, des scènes de sa vie quotidienne, bien loin dans un nouveau et merveilleux monde de vision et d'harmonie dont elle n'avait même pas rêvé. Devant elle s'élevait une cité d'orfins, aussi brillante que le cristal. Ses murs et jusqu'à ses fondations étaient de pierres précieuses. Ses douze portes étaient formées de 12 perles, une grosse perle à chaque porte. Ses rues d'or pur avaient la transparence du verre. Au centre coulait une rivière d'eau cristalline et sur chaque bord croissait un arbre aux fruits merveilleux. La cité n'avait ni soleil ni lune qu'on vit briller. Cependant, il n'y avait pas de nuit. Sur un grand trône blanc, un trône de lumière, quelqu'un était assis, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec sur la tête une couronne d'or, et autour du trône, vêtu de robes blanches, tenant des palmes à la main, étaient debout des milliers et des milliers d'élus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils jetaient leur couronne d'or devant le trône et leur voix s'élevait en chants de louanges et d'actions de grâce. Pour eux, désormais, il n'y avait plus ni faim ni soif. Le soleil ne tombait plus sur eux, ni aucune chaleur. Toutes les larmes étaient essuyées de leurs yeux, et la mort n'existait plus, ni le deuil, ni les pleurs, ni la douleur, car les choses anciennes étaient passées. « Soyons contents et réjouissons-nous, » chantait-il. « Louez notre roi, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et, glorieuse, au-dessus de cette glorieuse multitude, apparut une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Dilecta resta debout longtemps ce soir-là, sa lunette d'approche tournée vers les cieux, voyant et entendant bien au-delà des régions sans bornes de l'espace environnant. Oui, entendant aussi nettement qu'elle voyait. Son télescope portait les trois lettres d'or, foi, et par sa puissance, non seulement elle plongeait dans les profondeurs de la cité, mais elle distinguait ses hymnes d'allégresse. Vous devez penser combien Dilecta appréciait sa lorgnette. À la vérité, les beautés qu'elle montrait étaient obscurcies par la faible vue de l'enfant et les brouillards de la terre d'exil. Mais Dilecta savait que ce qu'elle apercevait était vrai, plus réel que les visions et les bruits de sa vie journalière. Lorsque ceci peserait lourdement sur la fillette, lorsqu'elle se sentirait lasse de son exil dans la vallée de larmes, elle prendrait l'incomparable présent du roi, et en un instant, elle serait bien loin, dans la terre, la cité, le palais, la demeure qu'il lui découvrait. De jour en jour, les lentilles du télescope devinrent plus nettes, les chants plus proches et plus doux, le regard de cette reine-mère couronnée d'étoiles plus brillant, et dans le cœur ardent de Dilecta, plus fort devenait le désir de voir, non comme à présent caché et sous un déguisement, mais face à face le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui, étant la splendeur de cette glorieuse cité, l'avait aimée et choisie, elle. Chapitre 17 du roi de la cité merveilleuse, la terre de la pénible attente. Le roi avait promis à Dilecta qu'outre la cité, son télescope lui ferait voir d'autres choses. Tourné vers la terre, il lui montrait un spectacle très différent. Mais la petite fille ne devait pas souvent le diriger de ce côté. Seulement quand Malinus ou les frivoles, ou soi, la pressaient bien fort et qu'elle avait peur de leur céder. Alors, elle trouvait cet instrument utile. Assaillie subitement un jour par Malinus et soi, Dilecta en usa de cette manière et en un instant, sa lumière surnaturelle perça la croûte dure de la terre sous les pieds de la fillette. Les choses épouvantables qu'elle aperçut lui furent une aide tout de suite, envoyèrent promener Malinus à toutes jambes et lui affermirent solidement le pied parmi les troupes royales dans la bataille. En vérité, ce que Dilecta vit ce jour-là l'effraya tellement qu'elle ne l'oublia jamais et n'eut guère besoin de braquer de nouveau sa lunette d'approche de ce côté. Lorsqu'elle tenait l'instrument entre ciel et terre, Dilecta voyait à mi-chemin une contrée étrange et triste appelée la terre de la pénible attente. Là se trouvait rassemblée une multitude d'amis du roi, fixant des regards d'ardent désir du côté de la cité. De temps en temps, ils saisissaient une note de ses chants. Quelques-uns d'entre eux croyaient même distinguer ses portes de perles. Pourquoi étaient-ils là? Parce qu'ils avaient envers le roi des dettes qu'il leur fallait payer avant d'être libres et d'aller à lui. Ces dettes eussent pu être acquittés dans la terre d'exil, si les débiteurs avaient été assez sages pour y aviser. Mais ils n'en avaient rien fait, de sorte qu'il leur fallait attendre, attendre encore et éteindre leurs dettes dans des souffrances terribles, n'ayant plus d'autre argent pour les payer. C'était une terre de tristesse à cause de l'attente et de la souffrance, mais une terre d'espérance aussi, parce que les pauvres prisonniers savaient leur nom écrit dans le livre de vie, et qu'ainsi ils étaient assurés de leur place dans la cité. Je vais tâcher de vous expliquer à quoi ressemblait leur souffrance. Avez-vous jamais été dans une serre chaude où la chaleur était si étouffante qu'à moins d'atteindre immédiatement la porte et l'air frais du dehors, vous croyiez que vous alliez mourir? Eh bien, tous et chacun, les ennemis du roi comme ses amis, ressentaient cela dès le moment où ils laissaient derrière eux la terre d'exil. La vue du roi dans sa beauté, la joie d'être avec lui, voilà le souffle même de leur vie. Sans cela, ils demeureraient dans les convulsions de l'agonie. Aussi se précipitent-ils tous vers lui dès que la sombre vallée est traversée. Si quelque chose les arrête, quand ce ne serait qu'une seconde, ils retombent en arrière suffoquant de douleur. Quelques-uns, ses ennemis, le voient un instant. Et puis il leur faut se laisser emmener loin de nuit, à jamais pour subir cette horrible agonie, toujours, toujours. D'autres, ses amis, sont aussi renvoyés et endurent de terribles souffrances jusqu'à ce que leur dette soit acquittée. Les yeux pleins de larmes compatissantes, Dilecta les observait, et se tournant vers son prince gardien, elle lui demanda si elle pouvait les secourir. Il lui montra comment c'était possible. En faisant ses devoirs et son travail quotidien pour le roi, en supportant bravement ses peines de chaque jour pour lui plaire, en étant bonne pour l'amour de lui envers tous ceux qu'il aimait, elle mettait de l'argent de côté pour se libérer lorsqu'elle arriverait aussi à la prison. Et puis, si la fillette le voulait, elle pouvait donner de ses économies aux pauvres prisonnières incapables de s'aider elles-mêmes. C'est ainsi qu'elle pouvait acquitter leurs dettes à leur place. Oh, que Dilecta était heureuse d'apprendre cela! À partir de ce moment, elle devint la véritable petite amie de ses pauvres amis du roi. Elle mettait de côté tout ce qu'elle pouvait, et même elle se privait de choses qu'elle aimait afin d'avoir davantage à leur distribuer. Son prince gardien, qui portait ses messages et ses dons, lui racontait combien il guettait son arrivée et combien il lui était reconnaissant de ce qu'elle envoyait. Le roi aussi remerciait car elle souhaitait ardemment d'avoir bientôt ses amis près de lui. Et il dit à Dilecta que quand ce serait son tour d'aller au lieu de la pénible attente, il se rappellerait qu'elle avait été bonne pour les autres. Et tous ceux qu'elle avait aidés à atteindre la cité dorée viendraient à son secours exactement dans la même mesure qu'elle était venue au leur. Vous voyez, quelle bonne idée avait eu Dilecta de demander si instamment au roi ce jour-là d'apercevoir les choses que foi pouvait lui montrer. C'est qu'elle le désirait et priait pour cela qu'il lui avait envoyé cette merveilleuse lorgnette. Il lui déclara qu'elle devait l'estimer comme le plus précieux de ses dons. Eut-elle un jour le grand malheur de perdre les autres, foi pourrait les ramener. Mais foi elle-même, une fois perdue, il serait très, très difficile de le recouvrer. Chapitre 18 du roi de la cité merveilleuse. L'amour courageux. Que de choses le roi apprit à la petite fille dans ses visites qu'il lui faisait, et quels heureux moments ils passaient ensemble. Elle s'asseyait sur le sol de terre à ses pieds ou sur le banc à côté de lui, et elle lui ouvrait complètement son cœur, car le roi tenait à savoir tout, tout. Dilecta le chérissait à présent que son ancien égoïsme diminuait chaque jour. Elle était arrivée à aimer ce qu'aimait le roi, et pas uniquement à cause des présents et de ce qui lui plaisait à elle-même. Elle lui demandait souvent ce qu'elle pourrait faire pour lui, quand ce serait à ses propres dépens, comment aider ceux qui lui étaient chers et qui avaient faim ou froid ou de la peine. malgré sa pauvreté, Dilecta économisait ses sous pour procurer des vêtements chauds aux amis du roi encore plus pauvres qu'elle. Il lui avait dit que quoi qu'elle fît pour ses amis, il le considérerait comme fait à lui-même. Parfois, elle entreprenait des choses très pénibles afin de pouvoir l'entendre murmurer. « Tu as fait cela pour l'amour de moi !» L'amour de la fillette, vous le voyez, devenait un amour courageux. Il se passa une chose étrange. Un matin qu'il vint la voir, il semblait à Dilecta qu'elle n'avait pas envie de le voir, qu'elle ne voulait point se donner la peine de se préparer pour lui. Elle se sentait maussade et malheureuse, lasse de tout, fatiguée d'essayer de plaire. Et allait-il revenir ? L'ancien temps mauvais ou insouciante Dilecta avait laissé le roi seul quand il venait la visiter. Elle commençait à se demander si c'était de sa faute cette fois. Mais elle ne se rappelait rien de précis qui lui fit appréhender de rencontrer le roi. Et cependant, elle avait peur. Le roi parut et Dilecta resta muette. Était-il irrité contre elle ? Car il ne parla guère non plus. Elle lui dit qu'elle était contente de le voir et d'autres choses de ce genre, mais il lui semblait qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. En tout cas, elle se sentait bizarre et triste, et lorsque le roi prit congé, elle ne mit aucun empressement à l'inviter à revenir. Le premier jour qu'elle le revit, ce fut la même chose, et le suivant, et ainsi de suite. À la fin, elle lui dit « Cher roi, qu'y a-t-il ? Pourquoi êtes-vous si différent à mon égard ? Seriez-vous mécontente de moi ?» Il la regarda tendrement et répliqua « Non, Dilecta, je ne suis pas mécontent. Tu m'as demandé de t'apprendre à aimer comme ceux qui m'aiment le mieux, non pour mes dons, mais pour moi seule. Je te l'enseigne en ce moment. Au début, quand je venais te voir, tu attendais toujours des présents. Tu examinais toujours non mon visage, mais mes mains. Tu souhaitais mes visites à cause du sentiment agréable que tu éprouvais quand je te promettais que tu serais une princesse de ma cour. C'était à toi-même que tu pensais tant que durait ma visite. Et si tu reprochais à la pendule de marcher trop vite, c'était parce qu'elle te dérobait des instants de bonheur pour toi, des moments où tu te sentais heureuse. Je veux t'apprendre que ces sensations n'ont aucune importance. Lorsque mes visites te rendront heureuse, réjouis-toi sans doute. Mais quand tu es fatiguée ou que tu ne te sens pas dans ton assiette d'une façon ou d'une autre et que tu ne trouves rien à me dire et que je te dise peu de choses, ne crois pas que c'est toujours une preuve de mes mécontentement. Si tu sais que tu m'as contrarié ou que tu as manqué de générosité à mon égard lorsque je t'ai demandé un petit sacrifice, regrette-le et fais-moi réparation par quelques paroles aimantes. Peu importe si tu ne sens pas ta tendresse. Les sentiments ne comptent pas. Dis-moi qu'il t'est impossible de m'en donner parce que tu n'en as point à cause avec moi de ton mieux. Et supporte patiemment la peine que tu ressens. Murmure-moi que ton pauvre petit cœur est triste et seul. Je te connais si bien. Je sais ce que tu voudras me dire. Si tu es incapable de l'exprimer, si tu ne peux rien dire ni rien faire, n'en sois pas en peine, je le saurai tout de même. Tu te tiens tranquillement à côté de moi. Tu me donnes un abri sûr dans ta cabane. Et ne crois pas, parce que je garde le silence, que j'y reste inactif. Je suis plus occupée que tu ne peux l'imaginer. Tu apprendras un jour, lorsque tu me verras, non sous mon déguisement, mais comme l'on me voit dans la cité. Cher roi, si seulement je pouvais vous voir ainsi maintenant, je crois que je sentirais plus d'amour pour vous, que je vous ferais un meilleur accueil. Les sentiments, tu les auras un jour, Dilecta, et ton accueil ne m'est jamais plus agréable que lorsque tu es contente de m'aimer pour moi-même et non simplement pour le bonheur que je fais éprouver parfois. Souviens-toi de ceci, autrement tu pourrais t'éloigner de moi parce que mes visites ne t'ont pas donné de te sentir heureuse. Sache qu'elles me rendent heureux et que cela te suffise pour le moment. » Aussi Dilecta se consolait-elle avec la pensée que le roi ne s'inquiétait pas des sentiments et qu'il était enchanté pourvu qu'elle fît de son mieux. « Elle a fait son possible, avait-il dit, d'une de ses amies, après l'avoir visitée jadis. » Il le répéta bien souvent de sa petite Dilecta, car les invitations de cette dernière étaient toujours les mêmes, qu'elle en éprouva du bonheur ou non. Elle ne se lassait jamais. Le roi manquait une visite, parce qu'elle savait qu'il désirait venir, et si seulement il pouvait lui plaire, elle était heureuse. Mais bien qu'elle consentît à attendre, l'enfant soupirait de plus en plus après le temps où elle pourrait voir le roi comme les bienheureux le voient et où elle l'aimerait ainsi qu'elle le souhaitait. Le roi lui affirma qu'il était plus occupé dans ses visites tranquilles et silencieuses qu'elle ne le soupçonnait. C'était vrai. Ce fut grâce à ces fréquentes visites devenues à la fin quotidiennes que l'éducation de la fillette alla si vite et si bien que son prince gardien reconnaissait à peine en elle la petite égoïste qu'elle avait été autrefois. Chapitre 19 du roi de la cité merveilleuse. Le roi dans sa beauté. Le temps approchait où l'éducation de Dilecta touchait à sa fin. Chaque fois que le roi venait, maintenant, elle lui adressait la même question. « Cher roi, sera-ce aujourd'hui ?» Et sa réponse était invariablement celle-ci. « Veille, sois prête, car tu ne sais ni le jour ni l'heure. Je ne dis pas prépare-toi, mais sois prête. » Aussi, la fillette s'efforçait-elle de mettre tout en ordre. La petite cabane était toujours bien balayée. La fenêtre propre et claire, le vase de fleurs agrestes préparé en l'honneur de l'arrivée du roi. Lorsque dès l'aube Dilecta se levait pour sa besogne de la journée, elle s'encourageait par cette pensée. Avant ce soir, peut-être je serai avec lui. Et le soir, en s'étendant pour prendre son repos, elle songeait. Peut-être le roi viendra-t-il avant le matin ? Tout son travail, tous ses petits actes de bonté étaient faits pour plaire au roi. Toutes ses peines et ses ennuis étaient supportés de bon cœur pour l'amour de lui, et aussi pour payer ses dettes ici, afin qu'elle fût prête à aller à lui tout droit, ou du moins sans un long arrêt sur la terre de la pénible attente. Dilecta avait tellement hâte d'être près du roi, de le voir dans toute sa beauté, comme on le voyait dans la cité, que souvent, lorsque le soir venait et que son ouvrage était fini, elle prenait son télescope et essayait de distinguer obscurément le rayonnement de l'or et des pierres précieuses et des scintillantes portes de perles, et elle chantait. « Quand vous contemplerai-je, ô céleste séjour ? Quand, ô mon Dieu, serai-je avec vous pour toujours ?» Dilecta savait qu'elle n'était pas hors de l'atteinte de ses ennemis. Malinus continuait toujours à rôder par là. Les frivoles n'avaient pas abandonné tout espoir de l'entraîner dans leur société. « Et que devient Soi ?» me demanderez-vous. Dilecta l'avait-elle oublié ? À peine. Il n'est guère facile d'obtenir que cette personne reste longtemps dans l'oubli. Pauvre Soi ! Cela ne m'étonne pas que vous vous y intéressiez. La plupart des gens font de même. Si nous n'avons pas autant entendu parler d'elle dernièrement, c'était simplement parce qu'il y avait moins à en dire. Tout bien considéré, Soi avait mieux tourné qu'on eût pu s'y attendre. Peu à peu, elle apprit à se tenir à sa place, ce qui est beaucoup dire pour une personne si disposée à se mettre en avant et à se donner des airs. Il est vrai qu'elle était toujours proche, mais moins importune, moins inclinée à raisonner, plus aisément amenée à se taire, à faire ce qu'on lui commandait. Elle finit par comprendre le sens de ce mot bref « Non !» et par supporter ce qu'il signifiait. Sinon, toujours, de bonne grâce, du moins avec patience. Bref, soi se conduisait mieux sous tous les rapports. Cependant, écoutez bien, on était obligé de la surveiller en tout et pour tout, et assez souvent, on la surprenait à jouer de ses anciens tours. Mais nous pouvons dire, il me semble, qu'en fin de compte, elle faisait honneur à son éducatrice. Et Dilecta compterait en elle une charmante petite compagne dans le palais du roi. Un jour, le roi vint à la cabane pour la dernière fois. C'était pour chercher la petite fille. Elle avait fait ce qu'il demandait d'elle. Elle avait résolu d'atteindre la cité et d'être avec le roi, toujours, à n'importe quel moment. Aussi s'était-elle laissée former par lui et par ceux qui tenaient sa place, et elle-même avait courageusement aidé à son éducation, ainsi que nous l'avons vu. À présent, l'œuvre était achevée. Dilecta était digne d'être une princesse de la cour du roi, et il venait la chercher. Ils sortirent ensemble de la cabane et descendirent encore et encore dans la sombre vallée qui s'étend entre la terre d'exil et la belle terre au-delà. Il y avait des choses effrayantes dans ces ténèbres, mais le roi entourait Dilecta de son bras et la tenait étroitement, afin qu'aucun mal ne pût lui arriver. Ils traversèrent la vallée et passèrent dans la belle terre. Comme ils approchaient de la cité, par-dessus les portes de perles flottait un chant qui venait de l'intérieur. « Ouvrez vos portes, ô prince, et le roi de gloire entrera !» Les portes de perles s'ouvrirent et un flot de lumière ruissela au dehors. Au milieu se tenait quelqu'un que la petite fille connaissait bien. Il avait laissé tomber son déguisement et il était là, comme il avait promis qu'elle le verrait, comme il lui tardait tant de le contempler face à face. Elle voyait le roi dans sa beauté et elle était satisfaite. Il l'amena dans la cité merveilleuse où il lui fit donner la bienvenue en récompense des bienvenues nombreuses qu'il avait reçues dans la maisonnette au jour du passé. Lorsque Dilecta aperçut la foule des princes et des princesses qui le servaient, vêtus de robes d'une blancheur éblouissante, et qu'elle vit la majesté et la beauté du roi lui-même, elle s'écria « Ô roi de gloire, comment avez-vous pu m'aimer assez pour venir sous votre déguisement jusqu'à la petite cabane lointaine? Oh, que ne vous ai-je mieux connu et aimé davantage !»